Et aujourd'hui, avec Marianne Schmitt, nous sommes avec d'autres soldats de la paix, juifs et arabes, vivant en Suisse, qui ont pour la première fois co-signé un manifeste pour la paix qui a été publié le 7 février 2002. Donc, ça manque avec Rachel Babkoff, membre du manifeste. Bonjour.
Bonjour.
Alain Bitard, également membre du manifeste. Et Louise Abeline, qui est porte-parole de l'Union interparlementaire.
Bonjour.
Alors, pour la première fois en Suisse, à peu près 500 personnes qui vivaient en Suisse ou d'origine juive arabe ont signé cet appel. Est-ce qu'on pourrait rappeler rapidement comment s'est constitué ce groupe du manifeste qui est antérieur à l'initiative de Genève?
Disons que devant la flambée de violence qu'il y a eu, je pense que c'était au fin 2001, un groupe d'amis juifs, arabes, se sont rencontrés, puis se sont dit qu'ils ne pouvaient pas rester, disons, immobiles devant ce qui était en train de se passer. Puis ils ont décidé de faire un texte ensemble pour dénoncer, d'une part, la politique qui était menée dans les territoires occupés par l'armée israélienne, et d'autre part, les attentats suicides qui étaient menés contre des populations civiles israéliennes, et pour dire l'intérêt qu'ils avaient tous ensemble à ce qu'il y ait une situation plus propice à la paix, et entre autres la reconnaissance d'un État palestinien indépendant, viable, à côté de l'État d'Israël.
Et justement, ce sont donc, d'après les négociations qui ont eu lieu, tout le monde a admis que deux États indépendants devaient vivre côte à côte.
Disons que oui, c'est une des... Je veux dire, c'est... Je crois qu'en tout cas, pour moi-même, maintenant, disons, au sein du manifeste, je pense que ce soit deux États, que ce soit un État, ce n'est plus la chose importante aujourd'hui. L'idéal serait qu'il y ait deux États côte à côte. Je pense que ça devient de plus en plus dur à réaliser, mais si ça peut se faire, ça serait fantastique. Je crois que les Palestiniens ont besoin d'avoir un État à côté de l'État d'Israël. Et que, dans cet état d'esprit, toutes les démarches individuelles ou collectives qui peuvent aller vers l'entente ou la compréhension de ces deux peuples font partie de notre démarche au sein du manifeste.
Myriam.
Alors justement, comment se définit et se place l'initiative de Genève? Est-ce que c'est un plan à lui tout seul ou plutôt une proposition complémentaire destinée aux acteurs du conflit? C'est une pression, une médiation ou simplement un appel au dialogue?
Alors écoutez, déjà, pour un petit peu clarifier les choses, le manifeste est une association de gens juifs, arabes, non-juifs, qui sont à Genève et qui disent il faut écouter l'autre et il faut essayer de trouver une solution tous ensemble. L'initiative de Genève est une démarche qui peut être considérée par certains comme une démarche de la société civile ou comme une démarche gouvernementale qui a été encouragé par les autorités suisses d'essayer d'amener des gens des deux côtés à faire une démarche qui est très intéressante parce qu'ils ont été aussi loin qu'ils pouvaient dans les concessions qu'un côté ou que l'autre côté serait d'accord de faire. Mais l'initiative de Genève n'est pas le manifeste et le manifeste n'est pas l'initiative de Genève. Je pense que c'est important. Nous avons soutenu l'initiative de Genève, mais nous soutiendrons aussi toutes les démarches qui pourraient aller en direction de la paix, quelle qu'elle soit.
Alors, pour le public en général, tous les mouvements qui discutent, qui aident à rechercher une solution pour la paix, on pense tous à peu près, on croit que ce sont des groupes liés. Comment est-ce qu'on peut dissocier l'initiative du manifeste, c'est-à-dire comment en parler sans penser à l'initiative? Rachel.
Il faut être très très modeste quand même. Le manifeste, c'est des gens qui habitent en Suisse et qui n'ont aucune prétention politique. Nous, on fait vraiment partie de la société civile et on est là à regarder ça de l'extérieur et à dire ça suffit. L'initiative de Genève, c'était quand même des Palestiniens, des Israéliens qui se sont assis ensemble et qui ont travaillé sur leur futur. Nous, on n'a pas de mot à dire là-dessus. On n'a pas à décider si c'est bien pour eux en état 2, état 3, état. C'est à eux de décider. Donc nous, on est un petit groupe à Genève qui essayons d'ouvrir des fenêtres et de permettre des rencontres. Et eux, ils travaillent sur le terrain. Et nous, c'est clair qu'on les soutient, parce que comme a dit Alain, tout ce qui va dans la direction de la paix, quelle qu'elle soit, du moment que c'est eux qui la décident, on soutient. Maintenant, on n'a pas de plan pour eux. C'est pas à nous de décider ce qui sera bon pour eux.
Mais vous permettez, par votre association, de donner un petit peu un exemple de dialogue qui pourrait avoir lieu sur place.
Oui, mais de nouveau, beaucoup de modestie. On n'est pas des exemples. Au manifeste, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de haut, de bas. Oui, on essaye. C'est vrai qu'il y a un respect. On essaye d'avoir du respect l'un pour l'autre. On se connaît maintenant, il y a une confiance. On travaille depuis plusieurs années ensemble. Quand on parle d'exemple, ça fait sourire un peu quand même.
Je crois qu'une chose à laquelle nous sommes arrivés par notre pratique au sein du manifeste, c'est d'arriver à une sorte de conviction, en tout cas, que dans nos rapports les uns avec les autres, c'est plus par le respect et par l'écoute que nous arrivons que par... je dirais, comme dans des partis politiques, par des rapports de force. Je veux dire, toute relation basée sur des rapports de force au sein du manifeste serait systématiquement vouée à l'échec, disons, ou d'un côté ou de l'autre. On ne peut absolument pas, dans le travail que nous essayons de faire, de rapprochement ou de compréhension ou d'écoute de l'autre, faire autre chose que de travailler sur la base de consensus, je dirais, basé sur la confiance, sur l'écoute, parce que si on en revient au conflit israélo-palestinien, il y a deux personnes que nous avons eu le plaisir de croiser dans le cadre du manifeste, qui sont Dan Baron et Sami Adouane, qui sont deux psychologues, professeurs d'université, qui ont travaillé ensemble, et qui ont fait un très beau livre qui s'appelle c'est l'histoire de l'autre. Et en fait, c'est un livre d'histoire israélo-palestinien en deux colonnes, où chaque événement est raconté différemment, d'un côté et de l'autre. Il y a deux histoires, en fait. Et l'important, c'est de réussir à comprendre qu'il y a deux histoires, donc deux passés, deux façons de vivre et de comprendre l'histoire, mais que nous souhaiterions, nous, au sein du manifeste, réussir à arriver à un futur qui pourrait prendre la forme, des formes différentes, mais disons qu'il serait un futur pour les deux peuples qui ne soit pas basé sur l'hostilité et sur la guerre. Alors, c'est excessivement idéaliste, etc. Mais ce n'est que, puisqu'on est en face de questions où des communautés sont en jeu, des nationalités, il ne peut y avoir, disons, que la confiance, ou en tout cas, un peu moins de méfiance entre les deux communautés qui pourrait amener à une solution, quelle qu'elle soit.
Alors, quels espoirs vous placez dans l'action de la société civile ? On peut penser, par exemple, des deux côtés, par exemple, à des Israéliens qui aident les Palestiniens à faire la cueillette des olives, en essayant, par exemple, de jouer le rôle de bouclier humain, ou alors des parents d'enfants palestiniens qui se sont fait tuer, qui appellent au calme, qui essaient de sensibiliser les gens sur l'extrême pauvreté à laquelle on arrive, finalement, par la violence. Est-ce que vous placez un réel espoir, maintenant que, finalement, des gouvernements ont plus ou moins échoué? Est-ce que la solution peut réellement venir de la société civile?
Disons, je ne sais pas si les gouvernements ont échoué ou s'ils n'ont pas essayé, mais par contre, tous les exemples dont vous avez parlé sont, à mon avis, des exemples admirables. Et c'est les exemples sur la base duquel nous envisageons que le futur est possible. Disons que ce soit les familles endeuillées dont vous venez de parler, qui sont ces familles qui ont eu des membres tués soit dans un attentat suicide, soit dans une opération militaire israélienne, qui sont des familles donc israéliennes et palestiniennes, qui ont décidé de se rencontrer, de travailler ensemble et d'écouter la douleur de l'autre, parce que fondamentalement, c'est une même douleur. un père qui perd son enfant, quel que soit le côté dans lequel il se trouve, disons, ressent, ou une mère, ressent une douleur, et il n'y a pas une meilleure ou une moins bonne douleur.
Et cette douleur pourrait rapprocher les gens, vous pensez ?
Disons que l'écoute de la douleur de l'autre peut rapprocher les gens, de savoir que finalement, il y a aussi une douleur chez l'autre.
Parce que ça humanise la personne. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute une propagande. Les pays en guerre, ils arrivent à être en guerre parce qu'il y a une propagande, parce qu'on doit convaincre le peuple et les gens que c'est l'ennemi, qu'il est méchant, qu'il est mauvais. Et quand on se rend compte que la personne qui est en face est dans la douleur et que c'est une douleur similaire, il y a tout d'un coup un côté humain. Et concernant cette association de parents endeuillés, je voulais juste faire une petite parenthèse pour dire que le manifeste organise avec la Comédie de Genève du 6 au 10 avril des événements, donc sur Israël-Palestine, et que nous avons invité à une table ronde deux personnes, une personne palestinienne et une personne israélienne, pour venir parler du travail qu'elles font ensemble, de ce que ça représente, et qu'elles seront sur cette table ronde avec deux femmes politiques pour voir justement ce qu'on peut opposer, jusqu'où le discours politique est possible par rapport à des gens qui sont blessés dans leur chair. Donc ça, c'est le premier, le jeudi 6 avril, et on commence tout notre événement à la Comédie par cette rencontre.
Avant la Comédie, on peut aussi signaler qu'il y aura les manifestations à Saint-Gervais, dont on pourra donner le détail tout à l'heure.
Tout à fait.
Après, vous avez parlé tout à l'heure de la propagande, mais je reprends les propos d'Amos Kitaï, qui était récemment ici pour présenter son film Free Zone, et lui disait que les journaux télévisés font beaucoup de tort à ce conflit parce qu'ils n'en donnent pas un vrai reflet. Et que c'est un autre type de propagande, d'utilisation. Est-ce que vous partagez cet avis que le conflit est très mal présenté ?
Tout à fait, mais ce n'est pas propre à Israël-Palestine. C'est propre à absolument tout ce qu'on on parle de l'information à gauche, à droite, mais c'est un mot qui est complètement galvaudé. On faisait complètement bête de dire ça, mais c'est absolument... Dire ces cinq dernières années, il y a eu 3 millions de morts au Congo. On n'en entend jamais parler. On entend parler un petit peu du Darfour. On entend un petit peu parler... Alors bien sûr qu'il y a une manipulation absolue quant à la douleur des gens et des conflits qui peuvent être utilisés à gauche, à droite, par des politiques, et que malheureusement, très malheureusement, les Palestiniens en font les frais, et également les Israéliens. Mais les Palestiniens, je dirais presque d'une manière plus grande, parce qu'ils sont utilisés vraiment par absolument tout le monde, y compris par la presse. On utilise leurs douleurs, et puis les Israéliens, on les cantonne dans des rôles comme ça, où les deux sont les victimes l'un de l'autre. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec Amos.
Je crois qu'il ajoutait, un jour ce sont les Israéliens qui sont les méchants et les Palestiniens des anges, le lendemain c'est le contraire. C'est clair. Il disait, c'est un feuilleton sans fin, sauf si nous, gens de la région, nous proposons une autre lecture. Et c'est aussi un petit peu votre envie avec le manifeste de proposer une autre lecture.
Tout à fait.
Et Alain Bitard,
je pense qu'il est indispensable de proposer une autre lecture aussi aux gens qui sont concernés par le conflit. Parce que les gens qui sont concernés par le conflit, disons, et qui le vivent dans leur chair, ont tendance aussi à être beaucoup plus facilement manipulables. Hier, un ami me disait, quand on a vu, quand on a des familles palestiniennes qui se sont senties attaqués par l'armée israélienne et qui n'ont aucun critère, aucune explication autre, par exemple, que de voir une étoile de David. Pour eux, l'étoile de David, qui est le symbole à la fois de l'armée, mais peut aussi devenir un symbole de la religion, permet énormément d'amalgame aussi. Donc, je veux dire, il est nécessaire, progressivement, de notre part, en tout cas, auprès de nos amis, auprès des gens que nous rencontrons, d'essayer de dire notre sentiment, qui est celui que il n'y a pas que une solution. Personnellement, je suis convaincu que les Israéliens ne pourront pas éliminer tous les Palestiniens, même si certains le souhaiteraient. Et je suis persuadé que les Palestiniens ne pourront pas éliminer les Israéliens. Donc, je crois que fondamentalement, le moment est pour eux venu de trouver un accord ou d'essayer de trouver un accord. Ceci dit, c'est un petit peu théorique de tenir un discours comme ça, parce que dans la réalité, il y a un occupant et il y a un occupé. Il y a une armée qui a des checkpoints dans toute la Cisjordanie, contrairement à toutes les règles de droit international. Et il y a une population qui vit cette occupation. Quand l'armée israélienne a quitté Gaza, ils sont quand même restés 3 mois sans avoir la possibilité de bouger. Alors j'espère que ça va changer. Mais disons, Gaza est une grande prison. La Cisjordanie est une prison un peu moins grande parce que le territoire est un peu plus vaste. Mais il y a aussi des checkpoints et des impossibilités d'aller d'un point à un autre qui sont permanents. Je veux dire, c'est aussi quelque chose qui concerne le manifeste, et le manifeste, au début, a clairement pris position pour un retrait, disons, de l'armée israélienne des territoires palestiniens occupés.
Alors justement, d'après tous ceux qui se sont exprimés, enfin, je pense aux dernières conférences qui ont été données fin septembre, il était donc question non pas de trouver presque un accord, mais d'établir un compromis, en insistant bien sur le fait que rien n'était nécessairement juste. Rachel Babkoff, est-ce
que... Un compromis entre qui ?
Excusez-moi. Entre Israël et les Palestiniens, c'est-à-dire que c'était simplement trouver un moyen de vivre ensemble de manière l'un à côté de l'autre, mais surtout pas ensemble, et que ce soit un compromis, et c'était justement accepter un petit peu toutes les pertes antérieures.
C'est pas être un génie que de reconnaître ça, parce que comme a dit Alain précédemment, on ne peut pas tuer tous les Juifs, on ne peut pas tuer tous les Palestiniens, donc il n'y a pas vraiment le choix, et il y aura effectivement... J'espère qu'il y aura un compromis. Maintenant, avant, on parlait de la société civile, de l'importance de la société civile. Je pense qu'il faut en même temps faire très très attention, parce que les gens qui sont poussés dans... C'est une situation qui est quand même extrêmement longue. Ça fait à peu près 60 ans, enfin même plus, même avant l'établissement d'Israël, c'est extrêmement long et les gens sont extrêmement fatigués. Donc ils peuvent aussi bien aller d'un côté, c'est-à-dire se dire oui, ça suffit, et faire des actions communes comme ces parents endeuillés ou comme les Physicians for Human Rights, qui sont ces médecins israéliens, qui vont travailler avec des médecins palestiniens dans les territoires. Et tout ça, que des gens qui se détournent complètement de ça et qui disent « ça m'intéresse plus ». Moi, je connais beaucoup de gens en Israël que j'aime profondément, une partie de ma famille d'ailleurs, et qui veulent simplement plus écouter ni la radio ni la télévision, parce qu'ils disent « ça suffit ». Ils étaient là dans les démonstrations pour Sabra et Shatila en 82, ils étaient là dans les manifestations pour sortir du Liban, ils étaient là. Et maintenant, ils sont arrivés à une sorte de saturation où il n'y a plus qu'une sorte d'individualisme forcené. Donc il faut qu'on soit très prudent, parce que notre marge de manœuvre est quand même assez étroite, et les gens sont vraiment poussés vers le fondamentalisme, l'extrémisme. Et ce n'est pas par hasard que maintenant, aussi bien chez les juifs israéliens que dans les territoires occupés, il y a 10 ans, il y avait très peu de femmes qui avaient les cheveux couverts dans les territoires, dans la Cisjordanie. Maintenant, quand on y va, vraiment une bonne partie est voilée. Quand on allait, il y a 20 ans, quand on allait à Jérusalem, on allait presque visiter Mehacharim, c'était extrêmement exotique, c'était le quartier où il y avait tous les religieux. Maintenant, quand on arrive à Jérusalem, il n'y a plus que des religieux, il n'y a plus que ça, la ville a complètement changé, donc... C'est difficile, il faut faire très attention et on n'a pas beaucoup de temps. Le temps joue contre nous.
Justement, avant vous disiez que du traumatisme pouvait naître une certaine humanité, paradoxalement, mais ça peut aussi conduire à un refus aussi tout net et une haine exacerbée. Et justement, par rapport à ça, le manifeste se base quand même sur un postulat de dialogue, que le dialogue est encore possible, et on a l'impression que depuis la deuxième intifada, certains protagonistes, en tout cas sur le terrain, ne sont pas du tout dans cette logique de dialogue. Est-ce que vous pensez réellement que, par exemple, des actions qui poussent au dialogue répondent à une certaine logique, se mettent à la place et répondent aux revendications sur le terrain des populations qui sont directement touchées?
Mais quel choix on a? Quel choix on a pour elles? C'est une question d'humanité, même si ça ne sert à... Il faut être modeste, mais en même temps, c'est... Alors quoi? Alors rester comme ça, devant ces populations massacrées des deux côtés? Et c'est vrai que le dialogue, c'est quand même si ça paraît complètement ridicule de dire ça, et Dieu sait si on l'a entendu, c'est la seule solution. Et quand on voit des gens, justement, comme ces familles endeuillées qui s'assoient côte à côte, on a eu une table ronde avec eux au Salon du Livre, avec deux hommes, un homme palestinien et un homme israélien qui étaient là. Et je peux vous dire que c'était la première fois que nous, on participait à une table ronde de ce genre, parce que d'habitude, c'était plutôt politique. Et là, c'était absolument incroyable. Tout d'un coup, il y avait une sorte dans la salle. C'était incroyable d'entendre ces gens parler. Et eux, ils étaient en quelque sorte légitimés, parce qu'ils avaient perdu ce qu'ils avaient de plus cher. Donc eux, ils étaient audibles, on pouvait les entendre. Et c'est ça, nous, le manifeste qu'on essaie de faire, c'est de faire que ces voix-là s'entendent.
Voilà, c'était un peu le point de vue de M. Alain Bittard, je crois, ce paradoxe justement que finalement on peut être assez pessimiste si on s'en tient sur les faits, mais que malgré tout l'énergie que vous déployez, par exemple dans le cadre du manifeste, montre bien qu'il existe encore, et vous y croyez, des portes de sortie, malgré tout, et que ça vaut la peine d'essayer.
Juste encore une chose, je voudrais dire que, comme vous venez de le rappeler, on peut être pessimiste. Mais les choix que les gens qui forment le manifeste ont fait, c'est d'abord un choix. On accepte que les autres puissent avoir, et on comprend que les autres puissent avoir des points de vue totalement différents du nôtre. Mais c'est notre choix personnel. Nous avons choisi, nous. On n'est pas sûr que c'est la seule solution, que c'est la meilleure solution. C'est en tout cas pour nous la seule solution que nous choisissons d'appréhender ce conflit. Nous n'imaginons pas aujourd'hui que... Écoutez, il y a un cycle infernal qui se passe dans cette région depuis des années et des années. C'est-à-dire, je tape, tu réponds, je retape plus fort, tu réponds plus fort, etc. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de porte de sortie. Les seuls espoirs, et c'est peut-être ça la raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui sont hésitants par rapport à tous ces discours un peu apaisants, etc., c'est qu'on a eu beaucoup d'espoir à plusieurs reprises, et ils se disent, mais ça sert à quoi si nous avons de l'espoir, et puis tout d'un coup nous sommes déçus, la déception est d'autant plus grande qu'on a, notre attente était grande. Et cela s'est reproduit à plusieurs reprises. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas, parce que de toute façon, si on s'enfonce dans la terreur, la seule solution aujourd'hui, elle est claire et elle est nette. Disons, si nous ne mettons pas de l'espoir, c'est tout simplement Sharon va terminer le mur. Les Israéliens et les Palestiniens ne se rencontreront plus dans la région. Il y aura un réseau de routes qui passera les unes par-dessus les autres, et les gens ne pourront même plus se voir. Et les Palestiniens seront enfermés dans des bantoustans. Les Israéliens seront eux aussi indirectement enfermés par un mur qui les empêchera de s'intégrer dans la région, le mur qu'ils auront eux-mêmes construit. Disons, ce n'est pas ce qu'on veut. Disons, moi-même, j'ai été éduqué dans le monde arabe à ce que les Juifs faisaient partie du monde arabe. Et donc, je veux dire, je ne peux pas créer des barrières aujourd'hui avec des gens, ni à cause de leur nationalité, ni à cause de leur religion. Je peux dénoncer des gens qui ont une politique qui me rebute, qui sont des hommes politiques, qui sont des chefs d'état-major, qui sont... Ceux-là, je les dénonce vigoureusement, mais je ne peux pas dénoncer un peuple, je ne peux pas dénoncer une religion, disons, à cause de certaines personnes. Et d'ailleurs, nous avons fait... Un des hauts faits, si je peux dire, du manifeste, a été la rencontre interparlementaire que nous avons organisée en collaboration avec l'Union interparlementaire entre une délégation de parlementaires israéliens choisis par la Knesset et une délégation de parlementaires palestiniens qui se sont rencontrés. Et en fait, disons, ça faisait, je crois, Luisa va nous donner plus d'éléments là-dessus, puisqu'en fait, elle était à l'origine aussi avec l'Union interparlementaire de cette rencontre, disons, d'un peu plus d'éléments sur ce moment très fort qui a fait que des gens qui ne se rencontraient plus ont recommencé à se parler.
Alors, Louise Abeline, en tant que porte-parole de l'Union interparlementaire, est-ce que vous retracez?
Oui, l'Union interparlementaire, donc, comme vous le savez, est l'organisation mondiale des parlements. Elle a été créée en 1889. C'est donc la doyenne des organisations politiques internationales. Elle a été créée justement à un moment où il n'y avait pas de possibilité pour les parlementaires des pays, entre guillemets, en conflit, de se rencontrer, d'avoir un espace de dialogue. Et en 1987, l'Union interparlementaire, qui a son siège à Genève, donc, a initié une série de rencontres entre des parlementaires arabes et israéliens. Et puis, petit à petit, ce comité sur les questions relatives au Moyen-Orient a organisé des rencontres entre élus de la Knesset et du Conseil législatif palestinien. La Knesset est membre donc de l'Union interparlementaire et la Palestine a le statut d'observateur. Et donc, l'UIP a essayé d'organiser plusieurs réunions, justement, entre élus de la Knesset et du Conseil législatif palestinien. Et la réunion qu'elle a co-organisée avec le manifeste, avec le soutien des autorités genevoises, en juillet 2003, était très intéressante parce que c'était la première fois que, officiellement, une délégation qui était donc désignée par la Knesset et une délégation désignée par le Conseil législatif palestinien depuis le début de la seconde intifada se rencontraient. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de formidable, puisque ces parlementaires de la Knesset et du Conseil législatif palestinien sont venus à Genève, ont non seulement accepté de dialoguer, de se rencontrer, mais à la fin, on a pu organiser une conférence de presse, ils se sont serrés la main, il y a des photos, donc c'était un message tout à fait positif. Et il a été décidé à l'issue donc de cette réunion de mettre sur pied un groupe de travail entre représentants de la Knesset et du Conseil législatif palestinien pour entretenir un dialogue entre les deux institutions, et je mets l'accent sur le fait que ce sont vraiment des institutions, ce ne sont pas seulement des individus, des personnalités éminentes israéliennes et palestiniennes qui ont décidé de collaborer et de travailler ensemble, mais vraiment les représentants de ces deux institutions. Donc quelque part, il y a une volonté politique d'essayer justement de jeter les bases d'un dialogue en vue effectivement de soutenir ce processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et je crois que ce qui était intéressant, c'était de voir à la même table des représentants israéliens, des représentants palestiniens et justement les représentants aussi du manifeste. Il y avait là aussi le président du comité pour les questions relatives au Moyen-Orient de l'UIP, qui est un parlementaire norvégien, M. Wallersnes. Donc je crois que c'était vraiment un message très très positif et j'espère qu'on pourra continuer évidemment ce dialogue. Comme vous le savez, il y aura des élections tant en Palestine qu'en Israël. Donc on aura un nouveau conseil législatif palestinien, on aura une nouvelle Knesset et nous espérons vraiment que lorsque ces deux institutions, ces deux parlements seront en place, on pourra continuer ce dialogue.
Et alors je pense qu'il y a aussi de toutes ces actions une évolution dans la population, parce que selon par exemple un sondage qui a été publié par le Mouvement pour la Paix, 76% des populations se déclarent en faveur d'une solution fondée sur deux États et 40% soutiennent une campagne pour justement arriver à des négociations. Est-ce que vous avez senti justement cette montée d'intérêt quoi, de la population des gens sur le terrain ? Rachel,
je ne sais pas quoi dire parce que je me méfie toujours des sondages. On leur fait dire ce qu'on veut, il y en a qui sortent tous les jours de tous les côtés, donc bien sûr que tout le monde est intellectuellement et viscéralement pour la paix, pour une solution. Maintenant, de savoir quels sont les moyens qu'on se donne, je ne sais pas.
Je crois qu'effectivement, on a déjà remarqué dans le passé que les sondages qui étaient faits, entre autres en Israël, si vous demandez aux Israéliens est-ce que vous voulez la paix, je crois que tout le monde dira oui, on veut la paix. Il n'y a personne qui dira on veut la guerre. Maintenant, si vous dites aux Israéliens est-ce qu'il faut se retirer des colonies, la majorité, ou un grand nombre en tout cas, je pense une majorité dira oui, il faut se retirer des colonies, ou on peut se retirer des colonies. Maintenant, disons, si vous dites aux Israéliens est-ce qu'il faut un mur pour se protéger d'éventuelles attaques palestiniennes, il y aura une majorité qui dira on veut un mur. Si vous faites la même chose avec les Palestiniens, vous arrivez à faire à chaque fois. La question, c'est que, un petit peu, dans l'initiative de Genève, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que ils avaient pris tous les aspects, plus ou moins de là où on, jusqu'à où on pouvait aller. Tandis que ces sondages posent des questions partielles. Disons, est-ce que vous voulez un État palestinien ? Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une majorité qui dise « on veut un État palestinien ». Mais par contre, vous avez une majorité qui dira « on veut la paix ». Donc, je veux dire, c'est qu'entend-on par « est-ce que la majorité de la population veut la paix ?» Disons maintenant, pour nous, c'est vraiment, je crois, quand je disais ce n'est plus important un État, deux États pour nous aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on réalise que ça devient de plus en plus dur, parce que les jours qui passent, la colonisation dans les territoires continue, les raisons, le mur se développe. Pour l'instant, le mur est en train d'être construit à l'ouest. Est-ce qu'il va être construit à l'est aussi ? Disons, il y a un enfermement des populations. Il y a des conditions très dures de vie qui sont en train d'avoir lieu. Nous continuons, en tout cas à notre niveau, à dire il n'y a que la confiance. Il y a des murs qui se construisent. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de détruire les murs que nous avons nous-mêmes, que nous créons, et de les aplanir, disons, entre nous et l'autre. Disons.
J'aimerais juste encore ajouter quelque chose concernant les sondages. On parle toujours des sondages, mais on entend parler que des sondages en Israël, des sondages du côté palestinien sont rarissimes.
Celui-là concernait les deux. Hein.
D'accord. Et puis c'est vrai que pour plein de raisons qu'on comprend, maintenant c'est vrai que quand on parle du mur d'une manière imagée que nous essayons de détruire, c'est vrai qu'on fait tout ce travail. Maintenant, il faut non plus pas être irréaliste, il faut bien se rendre compte qu'il y a une situation, c'est comme si nous on parlait ici un petit peu comme des 12 illuminés, qu'il faut faire la paix, patati patata, alors que la réalité sur le terrain, elle est tout autre. Elle est tout autre pour les Palestiniens qui peuvent pas aller à l'école, qui peuvent pas aller travailler, qui peuvent pas faire ça, mais elle est aussi tout autre pour la population israélienne qui pendant des années a sauté, je veux dire, quand le mur a été, le mur que les travaillistes voulaient, qui ont été faits patati patata, je veux dire, le mur, il a été fait aussi parce que l'année qui précédait, il n'y avait pas un endroit où on pouvait être en Israël sans sauter. Donc il y a une réalité de terrain qui est beaucoup moins légère et sympathique que notre petite réunion ici. Et ça aussi, il faut qu'on se rende compte qu'on travaille avec des gens qui sont massacrés de tous les côtés. C'est une réalité, c'est pas une simple image mentale comme ça. C'est vraiment et même s'il n'y a pas de comparaison à avoir entre ce que les Palestiniens vivent et la difficulté de la vie de tous les jours, de ce que ça représente pour n'importe qui, il y avait une réalité en Israël qui n'était pas simple non plus.
Mais les deux communautés, donc, ne cherchent pas nécessairement à vivre ensemble. Je reprends les propos de Shaul Arieli, qui est un des signataires d'initiative, je crois, qu'il disait on veut vivre l'un à côté de l'autre, mais pas ensemble. Donc, pas d'accord de paix comme avec l'Égypte, simplement une possibilité de vivre l'un à côté de l'autre. Et il disait qu'il paye le prix en évacuant les colonies.
Oui, mais c'est comme ça.
Il semblerait à ce moment-là que nombreux des intervenants soient d'accord sur le fait qu'il faut mettre fin à l'occupation, évacuer les colonies et reconnaître les deux États. Qu'est-ce qui bloque encore la paix ? Est-ce que c'est simplement le droit au retour ?
Allez, mais c'est vrai que, je veux dire, si Israël ne décide pas d'évacuer les colonies dans la Cisjordanie, je vois mal où un État palestinien pourrait exister. Ça, c'est simplement, serait-ce que c'est une simple réalité géographique déjà. Donc les colonies, indépendamment de l'occupation, de ce que ça représente, si on parle d'État palestinien, il faut être un peu conséquent avec soi. Et puis votre question, c'était, excusez-moi.
Mais justement, cette façon de vivre à deux, Vous évacuez les colonies et vous vivez dans deux états différents, mais pas ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compréhension, il y a simplement presque une sorte de mur psychologique.
Mais non, mais c'est, je veux dire, il y a toutes sortes de mariages. Ok, on doit vivre ensemble, on vit ensemble. Qui dit qu'on doit s'aimer? Qui dit qu'on doit... Je veux dire, non. Il faut simplement que ça soit civil, que ça soit décent pour les populations là-bas et que ces populations aient un droit à la vie. Ainsi que pour leurs enfants. Maintenant, on ne demande pas d'aimer. Moi, je n'aime pas automatiquement mon voisin. Je n'aime pas les gens avec qui je vis, avec qui je travaille. C'est une question de civilité. Et je ne sais pas pourquoi on veut toujours que la paix, tout le monde s'aime et s'embrasse et se tape dans le dos. La paix, elle se construit aussi. Donc, il y a un état à avoir. Et après, on met en marche toutes sortes de relations. Et ça sera une confiance qui se bâtira. Mais c'est illusoire d'espérer qu'à partir du moment où... Ça fait combien de temps qu'il y a une paix avec la Jordanie et avec l'Égypte? Et quel genre de paix c'est? En même temps, c'est une paix. Il n'y a pas eu d'attaque. En même temps, il n'y a pas eu de... Donc c'est respectable. C'est éminemment respectable. Et les Palestiniens ont droit à un pays. Et de toute façon, c'est illusoire de croire qu'Israël pourra survivre si les Palestiniens n'ont pas de pays. Donc c'est très simple. Si Israël veut survivre, il faudra qu'ils affrontent... ce peuple et ses revendications qui sont légitimes.
Alors justement, aujourd'hui, quelles sont selon vous un peu les perspectives actuelles? C'est-à-dire au-delà des faits, votre ressenti personnel. On voit qu'il y a eu, certains ont critiqué par exemple Arafat en disant il n'a pas réussi à nous amener ce qu'il nous promettait. Est-ce qu'avec un changement maintenant d'interlocuteur, ça vous ouvre pour vous, selon vous, de nouvelles perspectives? Et est-ce que l'élection très récente de Peretz en ouvre encore davantage? On voit un double changement d'interlocuteur. Est-ce que ceux-là seront à même de gagner ce que les autres finalement n'ont pas réussi?
Qui nous sommes, nous, pour dire ça? Par contre, le fait qu'Amir Peretz ait été élu contre Shimon Peres, moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que place aux jeunes, d'abord, quand même, un peu, parce qu'il est vieux, quand même, Peres, avec tout le respect que je lui dois. Et puis, Amir Peretz, il est d'origine séfarade. Donc il a une autre attitude aussi probablement à l'égard de ce conflit. Il est travailliste. Moi je trouve que c'est une très bonne chose. Je ne sais pas ce qu'il va être capable de faire non plus parce qu'il a des sacrées valises derrière lui. Mais je trouve que c'est une bonne chose parce que ça change quand même un peu la donne politiquement alors que ça fait des années qu'on est avec les mêmes joueurs.
Tout à fait. Et vous, Monsieur Bitter, votre sentiment?
Moi je crois qu'il y a un tel différentiel dans le rapport de force entre les Israéliens, le gouvernement israélien et l'autorité nationale palestinienne, disons, qui n'a pas les moyens de la moindre politique aujourd'hui, si ce n'est que ce qu'on lui impose, disons, de faire à court terme. J'espère que l'élection de Peretz, en tout cas tous les Palestiniens qui se prononcent, disent qu'ils espèrent que ça va donner quelque chose. Au niveau des élections israéliennes, vous savez, on est à la veille d'élections, on ne sait pas, et même les sondages ne sont probablement pas sûrs, on ne sait pas ce qui va venir. Donc, bâtir, disons, des projets comme ça en disant que ceci va se passer, ce que je sais, c'est que j'ai entendu Peretz, dire que ce qui pourrait arriver de pire aujourd'hui pour Israël, ça serait qu'il y ait un État palestinien. Et donc, je me dis, aujourd'hui, pour qu'il y ait un réel changement, il faut qu'il y ait des gens qui décident de changer. Si on prend, aujourd'hui, du côté palestinien, les gens qui sont au pouvoir sont des gens qui sont proches de ce qu'on appelle l'initiative de Genève, disons, sont... des gens qui sont a priori assez favorables. Il y a un rapport de force qui n'est pas du tout en la faveur des Palestiniens. Donc, je dirais que, de mon point de vue, ça démultiplie le pouvoir ou le rôle que les Israéliens ont. Ça veut dire que si une force en Israël émerge, comme Peretz, avec les gens de la paix maintenant, et puis les gens du Meretz et des autres partis décident tout d'un coup qu'il faut accélérer avant que ce soit trop tard la recherche pour la paix, à ce moment-là, ils ouvriront aussi du côté palestinien disons, des alternatives à la politique et aux grandes déclarations enflammées de certains, etc. Ils auront quelque chose en main. Ce qu'on oublie trop souvent dans ce rapport politique, c'est que, finalement, on exige des Palestiniens un certain nombre de choses, mais toujours en leur enlevant les moyens de pouvoir le réaliser. Disons, c'est ce qui se passe au niveau du fait que l'autorité nationale, aujourd'hui, voudrait bien, par exemple, donner quelque chose, donner quelques arguments sur la nécessité, en disant « il y a des portes qui s'ouvrent ». Mais quand on a vu la façon dont des pressions importantes américaines ont dû être faites pour qu'il y ait une petite ouverture à Gaza pour permettre aux Palestiniens de rentrer et de sortir, j'espère qu'il y ait un changement politique en Israël, qu'il n'y ait pas une situation qui s'empire du côté palestinien, de façon à ce que l'on puisse aller de l'avant, à ce qu'ils puissent, eux, aller de l'avant dans des négociations.
Justement, on a eu un peu l'impression, même depuis le début du conflit, qu'on se trouvait un peu classiquement dans un jeu qu'on appelle la somme nulle, c'est-à-dire où le gain de l'un était clairement une perte pour l'autre. Qu'est-ce que vous auriez à dire pour un bien commun, en fait, pour exprimer qu'il y a un bien commun et qu'on sorte, en fait, de cette logique de jeu à somme nulle?
Écoutez, moi, je suis tout simplement persuadé que les Israéliens et les Palestiniens sont dans un autobus qui est dans une pente et en bas, il y a un mur. Ou ils arrivent à arrêter l'autobus ensemble, ou ils iront tous s'écraser dans le mur.
Donc ils sont dans la même barque.
Moi, je crois qu'ils sont totalement dans la même barque, disons. Ils sont dans la même barque. Et dans une barque, il y a des rameurs qui sont plus forts, il y a des rameurs qui sont moins forts. Il va falloir faire avec tout le monde, disons. Je crois, comme disait Rachel tout à l'heure, disons, s'il n'y a pas d'État palestinien, Israël n'aura pas de sécurité.
C'est donc en même temps le rôle de... Non, enfin, pas le rôle direct du manifeste, mais de pouvoir sensibiliser les opinions au phénomène pour arriver à une pression politique. Mais comme vous disiez, Rachel, tout à l'heure, vous parliez d'une sorte de rajeunissement de la classe politique. Est-ce que ce sont les jeunes, parce que je reprends par exemple les propos d'un des musiciens qui fait partie de l'orchestre de Barenboim, était fait avec Edgar Saïd, et il disait les jeunes ne sont plus d'accord avec leur père, et non, ils ont également perdu confiance en la politique, et on peut trouver une solution avec des intellectuels, avec des artistes. Qu'est-ce que vous pensez de ce discrédit de la politique? Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment généralisé chez les jeunes?
Chez les jeunes là-bas, ici?
Les deux.
Oui, je pense qu'il n'y a pas de confiance dans la politique, mais il ne peut pas y en avoir. C'est un échec quand même assez dramatique, en tout cas au Moyen-Orient, de voir ce que les classes politiques ont réussi à faire de ces deux peuples maintenant. Maintenant, je crois très fort. Je crois que c'est bien si les jeunes ne font pas confiance là-dedans. Je pense que ça peut donner une force et une envie de chercher ailleurs. Et puis, je crois qu'effectivement, la musique ou il y a toutes sortes d'autres moyens de se rencontrer, de construire la confiance, et que la confiance, ça se décide pas. Ça se crée, ça se construit. Et ça, je crois que c'est tout à fait possible de le faire.
Nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. Quels sont les prochains projets du manifeste? Enfin, vous continuez la discussion, bien sûr, mais d'une manière concrète.
Alors, disons, bon, déjà, il y a quelque chose, c'est que des membres du comité prévoient de faire un voyage ensemble, disons, sur le terrain, mais de faire ce voyage et des rencontres ensemble. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient israéliens, palestiniens, qu'ils soient suisses, disons, un groupe va là-bas, donc entre Noël et Nouvel An. Ça, c'est une chose. Il y a tout le projet dont Rachel Babekov parlait avec la comédie au mois d'avril. Nous participons aussi à un projet avec Saint-Gervais, une quinzaine autour du théâtre palestinien et israélien, avec des lectures, et puis il y aura entre autres une prestation, je dis, du manifeste, où
avec différents intervenants, avec une quinzaine d'intervenants qui vont faire des interventions sur leur rapport à ces pays, à cette région, un rapport réel ou imaginé, avec différentes personnes qui sont autour de nous, dont des Palestiniens, des Israéliens, mais d'autres personnes comme Jean Mort, comme différentes personnes qui sont liées à ce.
Alors, je suppose qu'on peut trouver toutes ces activités, le détail, sur le site du manifeste, qui est donc manifeste.ch, c'est juste?
Oui, c'est le site du manifeste, c'est le manifeste.ch pour le projet de Saint-Gervais, disons, au théâtre de Saint-Gervais, il y a tout un programme qui est disponible aussi.